On donne suite ce matin à ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on avait vu la semaine dernière le psaume 9. Et on va considérer ensemble le psaume 10. On l'a lu tantôt avant le temps de prière. Il est bien différent à certains en plusieurs aspects, en fait, du psaume 9. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant que ça se complète. On a déjà lu le psaume au complet. Je vais juste commencer avec le verset 1, parce que ça donne vraiment un ton spécial à ce psaume comparé à l'autre. « Je louerai l'Éternel, là, là, là. » Puis là, ça dit au verset 1, « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? » Wow! Ça détonne un peu sur le psaume 9, mais vous allez voir, il y a tellement de trésors merveilleux. On va prier. On te remercie, Seigneur, que ta parole est un trésor de grand prix. Parce qu'on t'y trouve, toi, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation, le Dieu vrai, juste, bon, toi qui es amour. Seigneur, on te remercie de ce qu'on peut, ensemble ici, ton peuple réuni, s'asseoir à tes pieds pour entendre ta voix. Et oui, que ça soit dans nos cœurs le silence. Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de bruits, toutes sortes de choses qui viennent empêcher, Seigneur, on te prie que tu vraiment nous rendes chacun attentifs et que tu disposes nos cœurs face à toi. Ah, et Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore sauvé, que tu brises le cœur de cette personne afin qu'elle puisse voir l'Évangile, qu'elle voit Christ, le seul Sauveur, qui est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Seigneur, fais ton œuvre pour ta gloire maintenant, on te le demande, au nom de Jésus. Amen. Donc, comme je viens de juste de dire, les psaumes se complètent, mais aussi, ils se contrastent. Pourquoi? Parce que dans le psaume 9, on voit, j'ai pas su rappeler, une perspective collective, c'est le peuple de Dieu ensemble qui loue l'Éternel pour son règne sur les nations. Il le loue pour cela. Dans le psaume 10, c'est une perspective beaucoup plus individuelle. La personne qui considère le méchant. Donc, c'est beaucoup plus personnel. Il considère spécialement le méchant dans son ignorance de Dieu et dans son oppression des justes. Mais il y a plus que ça. Dans le psaume 9, on voit la louange. Dans le psaume 10, on voit le désespoir et même la perplexité. Dans le psaume 9, c'est l'expression d'une grande et d'une ferme confiance dans le règne de Dieu, et c'est pour ça qu'il le loue. Dans le psaume 10, c'est l'expression du grand désarroi face aux méchants qui semble prospérer, avancer dans sa voie sans que Dieu n'y prenne garde. Mais dans le psaume 9, on voit la foi exprimée par la louange, autant individuelle que collective. Mais dans le psaume 10, la foi est là aussi, mais exprimée par la prière, qui s'accroche à ce qu'il connaît de Dieu. Oui, il regarde aux méchants, mais ça finit pas là. Il s'accroche à ce qu'il connaît de Dieu, plus précisément à son règne suprême. Regardez le verset 16. « L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. » C'est ça la grande leçon, la grande vérité du psaume qu'on considère. Et regardez la fin du psaume. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent au Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Oui, Dieu écoute, Dieu voit. Dieu se préoccupe des opprimés. Il semble que le méchant prospère sans qu'il se passe rien. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu est là et il va s'assurer que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Il va faire ça en réponse à la prière du juste qui crie à lui. C'est ça la réponse de Dieu. Et il y a un grand réalisme, si vous voulez, dans le psaume qu'on vient de lire. C'est pour ça que j'ai commencé avec la question du verset 1, qui est une question difficile. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Ce n'est pas une question superficielle, c'est la question de quelqu'un vraiment ici qui souffre, puis qui, Dieu semble ne pas se soucier, ne pas intervenir, ne pas être là. C'est une question difficile, mais honnête. Et salutaire, parce que le processus par lequel ici le psalmiste passe, parce que là il pose la question, puis après ça il regarde le méchant, sa prospérité, sa pensée, on rentre même dans la pensée du méchant, c'est cette agonie qui est le chemin, le passage vers l'espérance, la foi, la confiance qui est exprimée à la fin du psaume dans les versets 12 à 18. Parce qu'il voit Dieu au-delà de la personne du méchant, au-delà du problème qui est en train de vivre. Et c'est ça l'essence de la foi, n'est-ce pas? La foi, c'est pas regarder au problème comme une fin en tant que telle, c'est voir le Dieu qui est au-delà, au-dessus, Amen. Plus grand que les problèmes. Ça serait pas la foi si on ne regarderait pas ailleurs. Amen. Par la foi, on change nos regards de place. Donc, ce qu'on va voir simplement ensemble, avec le message de ce matin, on va voir d'abord, avec les versets 1 à 11, on va avoir un regard réaliste et complet sur la personne, la situation et même la pensée du méchant. On va voir comment tout ça est vain, futile et fragile. Le méchant peut être impressionnant, mais ici, dans le psaume, on voit que tout ça, c'est bien vain, futile et fragile. Puis ensuite, dans les versets 12 à 18, on va voir, à partir de cette dure réalité, comment on peut prendre notre envol vers le Dieu qui règne, le Dieu qui est au contrôle, là où est-ce qu'on notre espérance renaît, où est-ce qu'elle est ravivée, parce que je relis la fin du psaume, « Tu entends le vœu de ceux qui souffrent au Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille, c'est pas en vain qu'on crie à Dieu. » Et ça, c'est le sommet auquel le psalmiste nous amène. Oui, il va dans les profondeurs de la dépravité humaine, mais il finit dans le sommet de la gloire de Dieu, de son règne. Et ça, c'est le cri de la foi, celui de la crainte de l'Éternel qui surpasse, qui supplante, la crainte de l'homme. Et c'est la pensée centrale de ce psaume. Et le titre du message, c'est « Dieu révèle quelle colère est à redouter ». Parce qu'on voit là-dedans, le méchant fait ci, puis ça, puis, mais c'est pas lui qu'on a redouté. La fin du psaume, l'homme tiré de la terre, qu'il cesse d'inspirer l'effroi. C'est Dieu et lui seul qui doit inspirer l'effroi. On va voir ça avec deux perspectives de la vie à connaître pour connaître la bonne colère à redouter. D'abord, dans les versets 1 à 11, la perspective humaine de la vie. OK? Si vous voulez, verset 1 à 11, c'est un peu comme, on va y revenir tantôt, mais un peu comme Ecclésiaste qui regarde les choses sous le soleil. OK? Il y a un regard arrêté sur la personne du méchant. Et tout ça commence avec la fameuse question que je relis au verset 1. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Comme je le disais tantôt, c'est une question difficile. Mais si elle est dans nos cœurs, on est aussi bien de l'exprimer à Dieu, parce que de toute façon, il voit qu'elle est là. Ça sert à rien d'essayer de faire notre spirituel puis de la cacher. Puis pire, de se tenir éloigné de ce Dieu qui réconforte. Pourquoi? Parce que ça nous éloigne d'être convaincus de notre besoin de secours, de notre besoin de grâce et de la présence du Dieu de paix, du Dieu de toute grâce. Parce que mes amis, la paix de Dieu, c'est pas l'absence de problème. La paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. Tantôt, c'est sorti dans la prière, tu dresses dans le désert une table en face de mes ennemis. Les ennemis sont là, il y a des problèmes, mais Dieu nous dresse une table, un endroit de communion, un endroit de rendez-vous avec lui, dans sa présence. Et c'est pour ça que la question ici au verset 1 est bien pertinente, parce qu'elle recherche la réponse. La personne la plus importante. Oui, il y a des problèmes, mais ça dit, pourquoi Dieu te tient-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autrement Dieu? Dieu, c'est toi que je veux. Dieu, je vois toutes ces choses-là, mais t'es où, Dieu? Voyez-vous que c'est une question qu'on peut dire, ben là, c'est pas très gentil de demander ça, on devrait être fin là, quand on prie. Pis... Mais non, c'est Dieu. Pourquoi là, que je te vois pas? Parce que c'est la chose la plus importante dans ma vie en ce moment. Je veux vraiment avoir ta présence avec moi. C'est vraiment le bon point de départ. C'est très différent de la semaine passée avec la louange. Mais ça, c'est là où est-ce que le Saint-Esprit nous amène ce matin. Et je vous donne des références parallèles par rapport à la présence de Dieu. Psaume 73, 28, vous connaissez peut-être. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Écoutez aussi celle-ci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Puis aussi, écoutez, Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On peut s'approcher de ce Dieu, on peut le chercher dans notre perplexité, dans notre désarroi, notre découragement. Ce Dieu-là est au rendez-vous lorsque on le recherche, lui. Et notez, hein, je viens de vous lire Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. La paix de Dieu, du Dieu de paix, ne vient qu'après... Elle ne vient qu'après que nous ayons été honnêtes à exposer à Dieu nos prières et nos supplications. Parce qu'elle dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça, c'est le verset 7. Ça, c'est le résultat. Avant, il faut aller à Dieu avec nos requêtes. Supplication, c'est encore plus fort. Et le bout le plus dur, c'est vraiment l'exaction de grâce, d'arriver à dire, « OK, Dieu... merci de ce que tu l'as décidé ainsi. Merci que c'est le chemin que tu as pour moi. » Ça, mes amis, c'est ce qu'il y a de plus dur quand on est dans l'épreuve. D'arriver à voir au-delà de l'épreuve le Dieu qui est bon pareil. Qui est toujours bon. Puis qui n'a pas arrêté de l'être parce qu'on a cette épreuve, parce qu'on a mal. Dieu ne prend pas plaisir à nous faire mal, mais il prend plaisir à former Christ en nous. Et comment Christ, c'est quoi sa vie? C'est une vie de souffrance. C'est un homme de douleur accoutumé à la souffrance. Il ne faut pas se surprendre si on a à passer par ça, si on veut marcher dans ses traces. Ça fait partie des choses qui concourent à notre bien, nous qui sommes ses enfants. Et ce Dieu-là, il règne. Je pense que la semaine dernière, on partageait avec des frères et sœurs le verset dans Daniel. Écoutez, Daniel 4, 35. Puis je pense, c'est à peu près, je pense au début, milieu de l'année passée, dans le temps qu'on se rassemblait dehors, je disais comment que, bang, ce verset-là, Seigneur m'avait ramené ça en voulant dire, prends ta place, puis laisse-moi la mienne. Écoutez, c'est quoi, peut-être que vous connaissez, Daniel 4, 35. Tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Autrement dit, on n'a rien à dire à Dieu sur ses plans, sur ses voies, sur ce qu'il a décidé de faire. On a juste à l'accepter humblement. Et ce qu'on voit ici dans le psaume, et spécialement dans les versets 2 à 11, on va y revenir dans un instant, on va les lire ensemble. Mais dans ces versets où est-ce que le psalmiste considère la personne du méchant dans ses pensées, ses actions, ses paroles, ça nous rappelle que la meilleure place pour apporter notre complainte ici, parce que c'est un style plaintif, le psaume, hein, c'est important de comprendre le style du psaume, notre plainte devant Dieu, la meilleure place, c'est de l'amener devant lui. Parce que ça fait partie intégrante de ce qui nous conduit à nous confier en Dieu. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir arriver à triompher de ces choses, quand on les amène devant Dieu. Et là-dessus, je vous donne une illustration. J'écoutais dernièrement une entrevue d'un pasteur d'une église en Californie qui partageait que son église a eu la même réaction initiale que nous, on a eu au début en mars, là, grosso modo mars 2020, avec les événements que vous connaissez très, peut-être trop bien. Mais cette réaction n'a pas été pour si longtemps. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été long qu'il a constaté la réalité des versets 3 et 4. Écoutez bien, ça dit « Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. » Mais spécialement le verset 4. « Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. » Il s'est rendu compte, ce pasteur-là, que les élites postmodernes qui nous gouvernent, ce sont leurs pensées. C'est ça qu'ils pensent dans leur cœur et c'est précisément ce constat-là qui l'a conduit au cri du verset 1. « Seigneur, tu te tiens, pourquoi tu te tiens éloigné? » Pourquoi te caches-tu? Mais il n'en est pas resté là. Il a passé par cette crise-là pour l'amener à une confiance active en l'Éternel. Et on dit, on va ouvrir, on va se confier en Dieu, on va faire confiance qu'on va adorer l'Éternel comme on le faisait de la manière qui lui plaît. Pourquoi? Parce qu'il s'est souvenu que l'Église de Jésus-Christ dans ce monde a le rôle d'incarner le règne de Dieu sur terre. L'Éternel est roi toujours. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est devant lui qu'elle se courbe. Et à cause de ça, pas en défiance, mais en soumission, ils ont décidé d'être ouverts. Pourquoi? Parce que c'est ce que la parole les a emmenés à faire. Et maintenant, j'aimerais aussi souligner que la façon que le pasteur a amené cette chose-là, non seulement c'était par rapport aux méchants qui voyaient qu'il devait se soumettre à son autorité supérieure, mais aussi c'était pour éviter que l'homme tiré de la tasse, pour qu'il arrête d'inspirer l'effroi. Le peuple de Dieu doit craindre l'Éternel. L'Éternel est mon salut, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? C'est Dieu qui doit nous inspirer l'effroi et non pas les hommes. Et oui, nous aussi, je crois que depuis à peu près ces mêmes temps aussi, Dieu s'est révélé à nous comme celui qui est à redouter, dont la colère est à redouter, parce que lorsqu'on s'arrête sur l'attitude, le sort des méchants, comme on va le voir là, dans les versets, la réaction qu'ils ont face à Dieu, ben nous, comme chrétiens, c'est quoi qu'on doit dire? J'ai aucune part avec ça. Écoutez bien, est-ce que c'est notre part de dire, comme le méchant, ok? Regardez au verset 2, « Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » C'est quoi notre part avec ça? Ou cette pensée, où est-ce qu'il pense qu'il est intouchable? Regardez les versets 5 et 6. « Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous les adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancellerai pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu qui se confie en l'Éternel a avec des paroles aussi insensées? Regardez verset 7 aussi à 11. « Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraudes, qu'il ne soit au milieu de vous qu'il n'y a aucune parole qui devrait être de ce domaine-là, que ça nous dit dans Éphésiens. Il a sous la langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite. » Comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe et se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit à son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face. Il ne regarde jamais. Qu'est-ce qu'on a à faire avec des gens qui ont comme ça aucune crainte de l'Éternel? Savez-vous que c'est quoi que doit être notre réponse à ça? Écoutez 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Ne vous mettez pas sous un même joug avec des étrangers. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Est-ce qu'on a vu ça en 2020-2021? Savez-vous que c'est notre appel? Savez-vous que nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes citoyens des cieux, étrangers voyageant sur la terre? Qu'est-ce qu'on a à faire avec les conspirations des méchants? Puis c'est pas le mot que je dirais. Les conciliabules. Qu'est-ce qu'on a à faire dans leur conciliabule? Ça, c'est dans la prière de Jacob, dans Genèse 49. En fait, quand on pense à ça, quand on voit des versets comme on vient de lire là, c'est notre appel en tant que peuple de Dieu, oui, à se séparer, mais vers Dieu. Ayant donc de telles promesses, 2 Corinthiens 7:1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte qui est due à son nom? Et c'est ça l'idée de la pensée ici, c'est ça la pensée du psaume 10. Le juste n'a aucune part avec le méchant. On peut voir ses voies et on voit que ça n'a rien à voir avec celle d'un enfant de Dieu. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle tantôt avec Ecclésiaste, parce que de la même manière, on peut arriver à deux conclusions inévitables. Soit au désespoir pour au découragement. Je ne sais pas si vous avez lu Ecclésiaste dernièrement, là, mais malgré que c'était le roi le plus béni, le plus riche et prospère de la terre, on voit, mon ami, son regard de la vie, c'est pas très enthousiaste. Vanité des vanités, toutes des vanités. Puis là, il dit, c'est la poursuite du vent. Puis là, t'as des choses, t'as travaillé toute sa vie. Puis c'est un insensé qui le prend, puis il va tout perdre ça. Comprenez-vous? Il y a vraiment quelque chose de profondément décourageant, désespéré dans l'Ecclésiaste. Mais, ça, c'est le constat sous le soleil. Si on arrive à la bonne conclusion, et ça, c'est dans la fin d'Ecclésiaste. Vous savez, c'est quoi la conclusion? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Et l'idée, c'est là ce qui fait le tout de l'homme. Tout est vanité, mais ce qui le rend complet l'homme, c'est craindre Dieu et observer ses commandements. Autrement dit, croire, obéir. L'obéissance de la foi. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et donc, soit qu'on va rechercher, qu'on va désirer Dieu, sa présence, soit qu'on va tomber dans le désespoir. C'est soit l'un, soit l'autre. Et celui chercher Dieu, c'est plus que chercher son intervention. C'est plus que chercher sa main, c'est chercher sa face, sa présence, c'est lui. Et c'est ça qu'on voit dans la deuxième partie du psaume. Oui, il y a eu la perspective humaine. Il a regardé les choses sous le soleil. Mais regardez comment tout ça l'amène devant l'Éternel lui-même. Verset 12. « Lève-toi, ô Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas le malheureux. » Voyez-vous comment tout ça se transforme en prière. Il élève devant Dieu la situation qu'il est en train de vivre. Et ici, cette perspective humaine nous rappelle que Dieu n'oublie pas, ne néglige pas la détresse de l'affligé. Il l'entend, il le voit, il est là. C'est pour ça que on peut être motivé, on peut avoir une confiance dans son intervention. Lorsqu'il dit, lève ta main, lève-toi Éternel, lève ta main. Vous savez, c'est une expression ici intéressante parce que quand on regarde dans Ésaïe, je ne sais pas si vous savez, mais un des titres messianiques, un des titres de Jésus dans Ésaïe, puis Ésaïe, c'est le prophète le plus messianique, c'est comme dirait M. Côté, si on squeeze Ésaïe, il y a plein de Jésus qui va sortir. Une expression un peu bizarre, mais bon. Là, en voulant dire, tiens, si on squeeze de même, là, mais bon. Lève ta main, c'est une expression idiomatique qui parle de l'intervention de Dieu. Mais vous savez, dans Ésaïe, c'est le bras de l'Éternel, mais ça inclut la main aussi parce que ça dit, dans Ésaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc tout ça, ça nous pointe à Christ. Lorsque Dieu dit, lève ta main. Dieu intervient personnellement, ça nous parle de la rédemption, ça nous parle de l'intervention de Dieu dans les affaires humaines. Et donc, écoutez bien, j'ai quelque chose d'important ici à partager. Apprendre à vivre par la foi en regardant les choses selon la perspective divine. On a vu la perspective humaine, mais maintenant, selon la perspective divine, c'est apprendre à vivre à la lumière de la rédemption qui est en Jésus-Christ. À la lumière de l'œuvre rédemptrice de Christ. N'est-ce pas ce que Paul dit lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, « Car l'amour de Christ nous presse. » Il voyait le monde, il voyait que le monde périssait, mais il dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Voyez-vous que sa perspective a complètement changé. Il voyait le monde à travers la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et lorsqu'on voit le monde comme ça, pour prendre l'expression de la main ici qu'on avait dans le verset 12, dans le psaume 10, si on prend les deux vérités, Ancien et Nouveau Testament, on voit que sa main a déjà été déployée. Le rachat, la rédemption est déjà accomplie. La restauration pour tous les perdus est accomplie. Et donc, vive à la lumière de ce que Dieu a déjà fait, de ce que Dieu a déjà pourvu, c'est dire « Merci Dieu ». que tu as pourvu pour tout l'amour dont j'ai besoin. Il est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Merci Dieu pour ta pureté, que je ne suis pas obligé de vivre selon les convoitises de ma chair. Mais qu'en Jésus-Christ, j'ai déjà toute la satisfaction qui est bien mieux que ce que ces convoitises pourraient essayer de me procurer pour un temps. Seigneur, merci pour ta patience, non seulement envers moi, mais pour celle que tu me donnes dans ta grâce. Merci que tu l'as déjà pourvue. Mais ça va encore plus loin que ça. Vivre à la lumière de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est aussi dire merci Seigneur que tu as déjà tout donné pour passer à travers cette situation difficile, cette relation compliquée. Tu as déjà tout pourvu Seigneur, merci. Savez-vous que c'est ça, vivre à la lumière de la rédemption? Même un pas plus loin. Attendez, avant d'aller plus loin, je voulais vous lire un verset à ce sujet-là. T'sais, nous avons tout pleinement en lui, ou ça le dit autrement dans 2 Pierre au chapitre 1, ça dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mais écoutez, encore plus à vivre à la lumière de la rédemption qu'on a en Jésus-Christ. Non seulement merci Seigneur pour ton amour, ta patience, ta pureté, les choses que tu m'as déjà données. Merci que les situations, tu les as déjà vaincues, même les plus compliquées. Mais aussi, écoutez bien celle-ci, merci que tu as déjà fait tomber ta colère pour cet ennemi, pour cette personne qui n'est pas sauvée, tu l'as fait tomber sur ton Fils. Savez-vous, c'est ça aussi la rédemption. Le Fils a apaisé la colère du Père. Et quelqu'un qui le refuse, c'est qu'il veut prendre lui-même ce que Christ a déjà fait. Mais ça fait en sorte que là, on va vraiment voir la personne avec des nouveaux yeux. Voyez-vous que lorsqu'on voit les choses selon la perspective divine, ça change absolument tout. Ça nous élève au-dessus de la dure réalité de juste voir le méchant dans ses voies. Et ça nous transporte dans la présence de celui, verset 15, qui brise le bras du méchant, qui punit ses iniquités et qui disparaît à ses dieux. Comment? Par la croix du calvaire. Christ a fait ça par la croix. C'est la croix qui fait ça. C'est comme ça que Dieu brise. C'est ça le temps de la grâce qui nous est offert. Et que maintenant, au lieu de vouloir nous venger nous-mêmes, la perspective divine de la vie nous pousse à vouloir que le méchant, que la méchanceté du méchant qui est tombé sur Christ soit reçue comme le plus beau cadeau qu'il y a. Christ a déjà pris cette colère que tu mérites. Mais prends-la pas pour toi-même. Christ a payé pour. Voyez-vous comment ça change absolument tout? Comment ça nous fait voir la grâce de Dieu? Comment est-ce qu'on voit? Est-ce que le péché, oui, il abonde, mais la grâce surabonde? Mes amis, ça c'est la perspective divine de notre vie. Et c'est la croix qui change complètement notre vision de la vie et la dynamique de nos relations. C'est-tu compliqué, pareil, les relations humaines? Les relations interpersonnelles? Peu importe le pays, peu importe la culture, c'est vrai. Si on faisait le tour ici, là, on aurait jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour faire le tour des situations compliquées. Non, parce que je vous vois, là, puis j'en connais là-dedans, c'est... Il y a des nœuds. Il y a des méchants nœuds. J'ai déjà été pogné ça, puis il y a même des gens, les militaires, ils apprennent à faire des nœuds. L'autre jour, Eric jouait avec une corde, puis ça a fini avec une espèce de nœud. J'avais jamais vu un nœud de même. Pour moi, il a pris ça dans l'armée, ou je sais pas trop où. Il y a des nœuds qui sont compliqués à faire et à défaire. Mais pas pour Dieu. La croix change notre compréhension de ce qui nous arrive, mais la dynamique des relations aussi. Pourquoi? C'est d'être saisi par la croix de Christ. Écoutez ce que Paul dit. Paul qui vivait, c'était rien que des problèmes qu'il y avait. Il dit, allez, quelque part, on se fait tirer des roches. Là, il allait voir des chrétiens, puis là, la chicane pognait avec un, puis l'autre. Puis il y avait toutes sortes de problèmes. Mais qu'est-ce que Paul dit aux Galates, avec lesquels il y avait des problèmes, puis auxquels il adresse les problèmes? Il dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Paul voyait le monde à travers la rédemption. Il avait la perspective divine des choses. Et il dit autrement, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Ou écoutez Philippiens 3:8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça, c'est la vision céleste, mes amis. C'est la croix. C'est voir tout à la lumière de la croix. Et je prends l'expression vision céleste parce qu'encore, écoutez Paul qui témoigne devant Agrippa. Et ici, il cite ce que Dieu, il est devant le roi, puis il cite ce que Dieu lui a dit. Il dit, afin que Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et là, ce qu'il dit à Agrippa, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Mes amis, ça, c'est être saisi par la vision céleste. Paul, sa vie, c'était Christ. Paul ne résistait pas à cette vision de la croix, de la rédemption. Et savez-vous que c'est pour ça qu'il avait été choisi et qu'il avait été envoyé? Parce que ça dit, juste avant les versets que je viens de vous lire, Dieu avait dit, « Car je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » C'était le plan de Dieu pour Paul. Et savez-vous, c'est aussi le plan de Dieu pour nous autres, parce que ça dit dans Philippiens, « De faire toutes choses sans murmure ni hésitation. » Ah, rien là. On fait ça tout le temps. « Afin que vous soyez irréprochable et pur, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, comme les versets 1 à 11, n'est-ce pas? Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Wow! Savez-vous comment Dieu fait ça? Il fait ça en produisant en nous le vouloir et le faire. Et nous, on répond à ça en mettant en œuvre notre salut avec crainte et tremblement. C'est ça la puissance de la vision divine de notre vie. Et regardez, ça nous met nous dans le psaume. Verset 16. L'Éternel est roi. À toujours et à perpétuité, les nations sont exterminées de son pays. Dieu règne. Le roi des rois ne devrait jamais être pris à la légère. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il entend, il écoute activement le cri de ceux qui sont en détresse. Verset 17. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent au Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Dieu n'est pas indifférent. Dieu est là. Dieu est proche. Et savez-vous quoi? Son règne, ça nous dit au verset 16 qu'il règne à toujours, à perpétuité. Ça, c'est éternel, mais aussi il est universel. Les nations sont exterminées devant toi. Dieu règne sur toutes les nations, sur tout l'univers. Et Dieu a compassion de ceux qui souffrent. Il incline son cœur vers les affligés, ceux qui souffrent. Et verset 18, il rend justice en réduisant au silence ceux qui les oppriment. Verset 18, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Je vais terminer en vous citant le psaume 71:20. Écoutez ce que ça dit. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Est-ce qu'on peut dire en 2020-2021, et peut-être même avant, tu nous as fait éprouver bien des détresses, Seigneur, des malheurs? Moi, je dirais oui, pas mal. Mais je suis content que le verset finit pas là. Ça dit, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Amen. Je pense que ce verset-là résume bien 2020-2021, parce que oui, il y a eu des détresses, oui, il y a eu du malheur. Mais c'est le lot de gens comme nous qui sont dans un monde déchu. Et Dieu permet ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet ces choses-là? Parce que c'est la souffrance. OK. Il faut que je laisse passer ça un peu, là. De la misère à me concentrer.
C'est la
vraie souffrance. Ouais. Pauvre petit pet. Non, il a pas faim parce que maman s'en occupe pas. C'est fou comme une petite créature de même peut avoir toute l'attention. Bon. Est-ce que je peux avoir votre attention? OK. Non, j'avais presque fini, mais là, je vais reculer un petit peu. Je viens de vous lire, je vous relis, OK? Dieu, tu nous as fait éprouver bien des malheurs et des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Pourquoi Dieu permet ces choses-là? Parce qu'exactement selon le même pattern qu'Israël en Égypte, Dieu permet la souffrance, il laisse les méchants leaders. Il y avait un bon roi du temps de Joseph, mais ça n'a pas resté de main. Dieu a permis qu'il y ait un mauvais roi qui vraiment donnait de la misère à Israël et qu'il faisait souffrir afin d'opérer une grande délivrance. Puis il dit lui-même, pour que tous les peuples de la terre sachent que c'est moi, l'Éternel, qui règne. Amen. Dieu, il y a un but avec ça. Dieu, son but, c'est pas notre confort, puis que tout aille bien, puis qu'on soit sur la plage avec... Notre sombrero, là, c'est pas ça la volonté de Dieu. Là. Je veux dire, ça fait partie de la vie, la souffrance, parce que Dieu veut se glorifier là-dedans. Et aussi, Dieu voulait susciter la crainte, il voulait montrer que c'est lui qui l'était à redouter. Pas un roi aussi grand comme Pharaon, puis après ça, il est plus devenu très, très impressionnant, parce qu'il y en a eu un autre, puis après ça, un autre, puis encore un autre. Dieu est le roi qui est toujours et éternellement à redouter, parce que c'est lui qui est le Tout-Puissant. Et ici, la grande délivrance que Dieu veut opérer pour nous autres ici, là, en 2021, c'est nous redonner la vie. À ceux qui sont morts, s'il y en a ici qui ne sont pas sauvés, qui connaissent la vie qui est en Jésus-Christ, mais aussi à son peuple qui soit libéré de l'abîme des œuvres mortes, de l'abîme de la justice propre. Et n'est-ce pas ce que Dieu a fait pas mal? Merci beaucoup. En 2020-2021. Wow! Ça, c'est bon, c'est la bonté de Dieu. Ça fallait passer par là pour que Dieu opère cette délivrance. Mais en passant, si vous êtes ici et vous n'avez pas la délivrance du péché, vous n'êtes pas sauvé de la condamnation du péché qui repose sur vous, l'ennemi de votre âme, Satan lui-même, voudrait que vous restiez dans un état d'autosuffisance, d'indépendance, et ne pas aller à Christ pour la délivrance, pour la vie, pour la délivrance du péché. Il veut vous garder loin du Dieu vivant, du Tout-Puissant, qui maintenant donne la vie à quiconque s'approche de lui par la foi. Doutez plus, arrêtez de le rejeter, arrêtez de raisonner, justifier votre indifférence. Humiliez-vous devant lui, il va vous élever, il va vous donner la vie. Mais à vous ici qui êtes ses enfants, est-ce que vous voyez comment Dieu est fidèle envers nous, son peuple? Depuis un an et demi, Dieu n'a été que fidèle, il n'a été que bon. Ah, le méchant a été à l'œuvre, il a fait de l'overtime. Mais Dieu a été bon. Maintenant, j'ai un mot d'avertissement. Il faut faire attention que la faveur qu'on a expérimentée, toute la paix, la joie, l'unité spirituelle, l'amour, les belles choses qu'on voit au milieu de nous autres, n'est-ce pas que c'est merveilleux? Mais attention, cela ne doit pas devenir l'objet de notre confiance ou de notre satisfaction, mais Dieu doit l'être et le rester toujours. Il est l'objet de notre confiance et de notre satisfaction. Parce qu'il y a des hauts et des bas avec les humains. Puis on peut dire, ah, mais c'est plus comme ça a été à l'Église. Et Dieu, lui, reste toujours le même.
Amen.
Et si on reste focusé sur Dieu, Dieu va continuer à faire son œuvre. Parce que le danger en ce moment, c'est un danger de la nature humaine. La nature humaine, elle se repose et se confie par défaut dans ses accomplissements, dans les choses passées. Mais la vie de Jésus-Christ, cette vie de délivrance, cette vie de liberté est une vie de dépendance. Constante. Toujours renouvelé. N'est-ce pas ce que Paul dit dans Galates 2:20? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis là, dans le présent, je vis dans la foi là au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, c'est une vie constante de dépendance qui doit être renouvelée à chaque jour, à chaque instant. Sinon, qu'est-ce qui arrive? On tombe à la configuration par défaut. Et tous les informaticiens ici comprennent ce que je veux dire. Les autres, c'est pas grave, faites juste faire un signe de la tête. Non, dans le monde technologique qu'on vit, la majorité comprennent de quoi je parle. Mais on retombe à la chair, à la dépendance de la chair. Mais écoutez bien, et c'est la réflexion que je vais avoir pour terminer puis nous amener dans la prière ensemble. Lorsqu'on transfère notre dépendance de l'esprit à la chair, on peut le faire en se campant d'abord dans une perspective humaine, comme on a vu, okay, en regardant les choses simplement du point de vue humain. Puis là, c'est comme ça que, devant nos ennemis, on chancelle, on les voit plus grands, on perd notre confiance devant l'Éternel, et on perd cette perspective divine de ce qui nous arrive. On arrête de voir Dieu au-delà des problèmes, des situations, des détresses, des malheurs. Ça, c'est un piège qui peut arriver. Mais on peut aussi devenir complaisant, être satisfait dans la situation dans laquelle on est. « Ah, c'est le fun, Dieu fait quelque chose, puis tout le monde s'assit. » C'est ça qui arrivait avant 2020. Oh, que Dieu nous préserve de tomber aussi là-dedans. Que Dieu nous préserve des pièges de notre nature, qui nous protège de nous-mêmes. Et c'est quoi la solution? C'est Dieu lui-même. Sa présence. Dans ta présence, il y a des joies abondantes. Dieu, lorsque vraiment il est au milieu de son peuple, qu'il agit, qu'il vit au milieu de nous en toute liberté, c'est là que vraiment il opère sa rédemption, qu'il opère sa délivrance. Et pour nous, je crois ce matin que simplement ce qu'on doit faire alors qu'on s'apprête à prier ensemble, c'est juste renouveler cette confiance, renouveler cette dépendance. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu as fait. Oh, mais si un instant t'arrêtes, on est vaincu. Donc Dieu, on te veut toi. Continue, tu fais juste commencer, tu peux faire tellement plus, infiniment au-delà de ce qu'on demande et qu'on pense. Qu'on aille ensemble à ce Dieu-là, invoquer sa miséricorde, sa grâce, sa protection, et qu'il continue encore plus. On a, comme je disais tantôt, il y a bien des histoires qui ne sont pas terminées. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a besoin de la grâce de Dieu, amen, du Dieu de grâce? Amen. Prions. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu de toute grâce. Et Seigneur, c'est toi qu'on désire. Seigneur, si toi, tu es là, dans tous les problèmes qu'on peut vivre, Seigneur, et oui, les problèmes relationnels sont compliqués. On n'est pas capable de changer aucun cas. C'est toi, Seigneur, qui fais ça. C'est toi qui dispose. On l'a chanté tantôt. Ah, Seigneur, on vient à toi invoquer ta miséricorde, ta grâce sur nous, ton peuple. Que tu continues cette œuvre de grâce. On te remercie, Seigneur, que jusqu'ici, tu nous as secourus. Tu nous as répondu aux cris faibles de notre cœur. Tu as eu compassion de nous. Tu as regardé nos vies affligées. Tu vois, Seigneur, chacun ce qu'on vit, le malheur que chacun peut traverser. Seigneur, tu nous as fait passer par bien des détresses et des malheurs, mais merci que tu es celui qui redonne la vie. Tu fais remonter des abîmes de la terre. On invoque, Seigneur, ta grâce, ton secours. Dirige ce temps de prière en réponse à ce qu'on a entendu. Au nom de Jésus. Amen.